Voilà, le psaume 56, vous aurez une photocopie du psaume. Donc, j'ai dit, vous n'avez même pas besoin de votre Bible ce soir. Mais j'espère que vous avez un stylo. Si vous n'avez pas accès à un stylo, est-ce que vous pouvez lever la main et on va faire ce qu'on peut pour vous en procurer un. Voilà, il y a Olivier qui vient avec des stylos. Et Viviane avec des papiers. Ok, on va lire d'abord le psaume. Et à vous de trouver le refrain et puis les thèmes de ce psaume. Le psaume 56. Au chef des chants, sur colonne des térébintes, lointain, hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Verset 6. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils veulent, en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent. Au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen, la parole de Dieu. Alors la première chose que je veux faire, c'est de trouver ensemble le refrain. Où est le refrain? Une partie qui se répète. Est-ce que vous pouvez me le dire? Ok, le premier se trouve au verset. D'accord, au verset 5. Et puis le deuxième se trouve au verset 11. Ok, donc peut-être avec votre stylo, vous pouvez mettre un gros cadre au-dessus des, enfin, autour des deux refrains. Ok? Un gros cadre. Bon, même dans la feuille que vous avez. On l'a un peu distingué pour nous aider. Mais dans vos Bibles, il y a souvent dans les psaumes des refrains. Et moi, je trouve que ça m'aide beaucoup à mettre un cadre autour d'un refrain, que je vois une partie répétée. Parce que souvent, le thème se trouve dans le refrain, dans ce qui est répété. Ok, donc on a trouvé le refrain et on va regarder les thèmes de ce refrain. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Versets 11 et 12, je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Alors, quels sont les trois verbes qui sont répétés? Quel est le premier verbe qui est répété là-dedans? Ok, c'est le verbe glorifier. Donc là, vous pouvez peut-être l'entourer et les lier par un trait. D'accord ? On trouve au verset 5. Je sais que c'est trop petit pour voir, mais c'est juste pour vous donner une idée, pour que vous fassiez sur votre feuille ce qui est là. L'entourer, et peut-être un trait entre les deux, surtout celui du verset 5 et ceux du verset 11. Donc, et quel est le deuxième verbe qui est répété? Ok, c'est le verbe se confier, ou je me confie. Vous voyez ça? Verset 5, donc là encore, vous pouvez, oh là, si vous n'avez pas une autre couleur, vous mettez un petit carré au lieu d'un cercle ou d'un ovale. Je me confie, et on le retrouve aussi au verset 12, pardon, je me confie. Ok, quel est le troisième verbe qui est répété dans les deux refrains? C'est le verbe, voilà, craindre. Voilà, vous trouvez une autre manière, peut-être le souligner. On le trouve ici au verset 5 et on le retrouve au verset 12. Voilà. Ça, c'est les verbes, se glorifier, se confier, ne pas craindre. Quels sont les objets maintenant des verbes? Un objet direct ou indirect? Quel est l'objet du premier verbe? Ok? Très bien. Donc, je me glorifierai en Dieu. En Dieu. Vous avez aussi le mot éternel. Hein, je crois que... c'est quand c'est au verset 12, 11, c'est l'éternel. Deux mots différents pour Dieu. Ok, quel est l'autre objet du verbe? Pardon, j'ai pas. J'ai toujours pas.
Je me glorifierai.
Ah, je me glorifierai. Oui. Oui, mais d'accord, c'est un verbe réflexif. Mais je me glorifie en Dieu, et puis je me confie en sa parole. Ouais, c'est ça que je cherchais. En sa parole. Et là aussi, est-ce que c'est répété? Dans les deux refrains? Oui, c'est répété. Voilà. Et puis, pour le troisième verbe, quel est l'objet de ce troisième verbe? Craindre. Voilà, je ne crains rien, ou que peuvent me faire des hommes. Voilà. Ok, il y a encore une petite différence entre les deux refrains. Est-ce que quelqu'un l'a vu?
Le deuxième est plus long, il y a une deuxième.
Voilà, le deuxième refrain est plus long, très bien. Et quelle est la différence? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Voilà, voilà. C'est plus étoffé et c'est répété. Je me glorifierai en l'éternel en Dieu, en sa parole, et je me glorifierai en l'éternel en sa parole. Il y a cette idée qui est répétée avec un autre mot pour Dieu, mais sinon c'est une répétition qui suggère quand même une certaine importance. Quand on revient et on répète une certaine idée. Voilà, ça c'est pas trop difficile, hein. Vous pouvez faire ça dans votre Bible. Vous cherchez des mots qui se répètent, vous cherchez des verbes qui se répètent, et puis vous commencez à réfléchir, mais pourquoi ces répétitions? Et vous allez voir que souvent la méditation est avec l'esprit, parce que l'esprit est vivant, n'est-ce pas? Il agit, même dans nos pensées, et on s'ouvre à l'esprit, et on réfléchit, et vous verrez que souvent votre âme est vraiment nourrie par les réflexions qui vous viennent. Et c'est bien de pouvoir les noter quelque part, hein, sur un cahier, ou si vous avez une copie de la Bible, vous pouvez entourer, vous avez des marges assez grandes dans la Bible elle-même. C'est une très très belle chose, je vous encourage vivement à le faire. Et vous allez connaître vraiment une étape plus belle de la communion avec le Seigneur quand vous êtes prêts à interagir avec sa parole de cette manière. Alors, la deuxième chose qu'on veut noter, c'est la place centrale des paroles. Vous l'avez peut-être vu déjà, un commentateur français appelait ce psaume le chassé-croisé de paroles. Alors, on veut trouver ensemble qui parle à qui. Alors, quand vous commencez le psaume, tout début, au début, qui parle à qui? Ok, très bien. David parle à Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on veut noter. Donc, peut-être dans la marge ou derrière la feuille, marquez ces choses. David parle à Dieu. Hein? Aie pitié de moi, verset 2. Au verset 9, il dit, tu comptes mes pas, les pas de ma vie errante. Au verset 13, ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits, je t'offrirai. Vous voyez, la deuxième personne, c'est quand il dit toi ou tu, c'est toujours Dieu. Ok? Mais ce n'est pas tout. Le mot parole apparaît 4 fois. Ça aussi, c'est un mot qu'il faut relayer. C'est le mot qui apparaît 4 fois. Là aussi, peut-être, vous pouvez les entourer et les relier. Où est-ce que vous voyez la parole pour la première fois? Le mot parole. Pas une parole. Voilà, très bien. Au verset 5. Et on le retrouve où encore 2 fois? Verset 11. Voilà. Donc là, vous avez déjà 3 occurrences. La quatrième est cachée. Hein, je vous montrerai parce que c'est pas on ne voit pas en français. Mais parlons de cette parole. C'est la parole de qui à qui? Verset 5, verset 11. La parole, c'est forcément quelqu'un qui parle. Hein? D'accord, c'est Dieu qui parle. Donc, on va dire à David, hein, au psalmiste. Donc, Dieu parle à David. Hein, on est d'accord? C'est pas trop difficile. David parle à Dieu. Mais on voit aussi qu'il parle de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu parle aussi à David. Ces trois références à la parole de Dieu sont très importantes. Pour ce psaume, il faut les marquer. Et je crois aussi quelque chose qu'on peut tirer là-dessus, c'est de noter qu'il y a une équation totale entre son estime de Dieu et son estime de la parole de Dieu. Vous voyez ça au verset 5? Je me glorifierai en Dieu, en... Voilà, il y a une équation totale. On ne peut pas dire « j'aime Dieu, j'aime pas sa parole ». Ou « j'écoute Dieu, mais je lis pas sa parole ». On ne peut pas dire ça. Si on se glorifie en Dieu, on se glorifie en sa parole. Et donc forcément, se glorifier en sa parole, c'est de se glorifier en Dieu. Il y a des milliers de gens qui cherchent une expérience avec Dieu tout en contournant sa parole. Et non, la vie spirituelle est centrée sur la parole. Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle, il se révèle d'une certaine manière. Et vous voyez ça aussi au verset 11. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Peut-être là sur votre feuille, vous pouvez mettre le symbole pour égal entre en Dieu et en sa parole. Hein, pour juste souligner ce fait. Se glorifier en Dieu, égal... se glorifier en sa parole. Et il le répète là, je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Et même si on le traduit comme la seconde 21, je loue Dieu pour sa parole, je me confie en Dieu, ça revient au même, il y a une équation parfaite entre mon estime de la parole de Dieu et mon estime de Dieu lui-même. Je ne peux pas séparer les deux. Et ça, c'est une note que, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez le psaume, ça, c'est une note que vous pouvez faire dans votre marge. ou dans votre cahier. Hein, une méditation comme ça, mon estime pour Dieu égale mon estime pour sa parole. Mais qui d'autre parle? Regardez le verset 2. On a déjà vu que David parle à Dieu, mais qui d'autre parle? Au verset 2. Ok, les hommes, ouais, et ces hommes parlent à qui? Voilà, donc ça c'est notre troisième groupe ici. Il y a des méchants qui parlent à David. Et je dis qu'ils sont méchants parce que, voilà, ce sont des adversaires, des ennemis, ils harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Vous voyez, il y a une répétition là aussi. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Ici abonde le vocabulaire de la communication orale. En fait, je pense même quand il dit « ils me font la guerre », c'est il fait allusion ici parce qu'il revient sur le fait d'harceler, il revient sur... sur ces choses. Donc, vous pouvez noter ça. Donc, cette répétition du mot, du verbe harceler. Et pitié de moi, verset 2, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Et verset 3, à la fin, tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Là aussi, une répétition du même mot. Le mot est traduit ailleurs haleter quand le sujet est une ânesse. Ça fait référence donc à une brie. Évoque un halètement, donc, c'est-à-dire un bruit qui sort de la bouche. Mais quand il y a la répétition dans les psaumes, souvent c'est pour suggérer un état aggravé ou l'importance d'une chose. Donc Dieu est saint, mais il va dire saint, saint, saint et l'éternel. C'est rare qu'il y a trois répétitions. Mais ici, il me harcèle. Et on voit que c'est vraiment une situation grave qu'il connaît. Il y a aussi une autre répétition par rapport à ces méchants envers David. C'est quoi? Voilà. Ça aussi, vous pouvez le marquer d'une façon ou d'une autre. Là, je l'ai marqué en bleu. Hein. Ils me font la guerre. Au verset 2 et encore au verset 3, ils me font la guerre comme des hautains. C'est aussi traduit m'assaillir, me combattre, m'attaquer. Alors, que font-ils exactement? Ben, trouvez le verset 6, hein, ça donne encore plus. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits, ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées, ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Ils pensent réussir par leur méchanceté. Donc, voyons qu'ils veulent à sa vie, mais la chose qu'ils font, est au début du verset 6, sans cesse, il porte atteint à mes droits. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction pour la première ligne du verset 6? Ok. Tous les jours, il me tourmente en parole. Ok. Là c'est un peu plus proche parce qu'il y a le mot parole, en fait. Littéralement, il y a le mot parole. Quand ça dit mes droits, verset 6, c'est littéralement mes paroles. C'est la quatrième occurrence de ce mot parole. Le Darby, et la Bible a noté, dit tout le jour, il tord de mes paroles. Au lieu de mes droits, mes paroles. Hein, comme si ça fait référence aux paroles de David. La Bible en français courant dit « Tous les jours, il déforme ce que je dis. » La seconde 21, « Sans cesse, il déforme mes propos. » Et la semeur dit « Au longueur du jour, il tord ce que je dis. » Donc, quelque part, David parlait aussi à ses hommes. Hein? Et je crois que nous avons une référence dans ce verset. Il parle aussi aux méchants. Il y avait une conversation entre eux. Donc toute cette histoire se déroule autour de paroles. Et quand David, si vous voyez le début, il est arrêté à Gath, il ne peut pas leur faire la guerre. Donc David est contraint à faire quoi pour sortir d'affaire? Qu'est-ce qu'il fait? quand il est arrêté à Gath. C'est le psaume 34 qui nous dit, et 1 Samuel 21 aussi. Il contrefit l'insensé. Voilà. On a l'histoire, je vous donne ici, en 1 Samuel 21. David se leva et s'enfuit le même jour de Saül. Il arrivait chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ?» David prit à cœur ces paroles et il y eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux. Et il fit devant eux des extravagances, il faisait des marques sur les battants des portes, il laissait couler la salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci, me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» Et le psaume 34 dit qu'il a renvoyé. Alors, on ne sait pas ce que David leur a dit au début, mais il semble que c'est l'intervention de certains de ses serviteurs d'Achish qui change complètement la donne pour David et le met dans un péril extrême et lui donne peur. Hein. Vous voyez ça au verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath, mais c'est ici, les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là, David, roi du pays? Et on sait, si vous lisez le chapitre 21 plus tôt, on sait que David avait menti au prêtre de Nob, juste avant. Parce que les prêtres ont dit, mais pourquoi tu es là? Et il a menti, il a dit, Saül m'a envoyé pour faire une mission secrète. Or, en fait, il s'enfuyait de Saül. Et ça, c'est l'arrêt juste avant qu'il arrive ici à Gath. Et l'histoire, donc, telle qu'elle est racontée, ne nous amène pas à croire que David, qui venait de mentir au prêtre de l'Éternel, allait dire la vérité aux païens de Gath. Certainement, il est toujours dans le mensonge. Mais selon ce psaume 56, il dit, à longueur de jour, il tord de ce que je dis, il ne pense qu'à me nuire, posté à l'affût, il m'épie et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie. Donc, on ne sait pas ce qui est arrivé avant qu'il arrive au roi Achish, ni après que le roi l'a chassé. Alors David se trouve piégé. Il faut réfléchir juste un moment aux situations de David. Et à quel point il est désespéré pour faire ça. Il réalise tout d'un coup qu'il a d'autres ennemis que son maître. Et c'est difficile pour nous d'imaginer le désespoir dans lequel David se sentait pour tenter une telle extravagance. Mais c'est absolument, dans un sens, c'est absolument stupide de faire le stupide devant le roi. Il veut à sa vie, il sait qu'il voit peut-être son dernier jour. Et c'est alors qu'il se met à faire le fou, comme s'il est vraiment fou. Et il ne sait pas si son coup va marcher, mais il n'y a rien d'autre à faire. Et regardez le verset 13, il dit qu'il faisait même des marques sur les bâtons des portes. Il y a peut-être de l'or, et il gratte dessus, et il écrit sur le mur du palais. Alors qu'est-ce qu'il va faire si ce coup ne marche pas? Qu'est-ce qu'il va dire? Ok, bon, j'avoue, j'ai écrit sur les murs du palais, mais bon, c'était une blague. Alors maintenant, je vais vous dire la vérité. Il ne peut pas, c'est sa dernière chance. Il n'y a pas de plan B si ça ne marche pas. Et quand il regarde en arrière, ce temps très fort dans sa vie, il n'est pas rempli de vantardise. Il ne trouve pas ses copains pour leur dire, hey, vous savez, le coup que j'ai joué, j'ai fait le fou, ils m'ont cru. Je les ai eus. C'est pas comme ça qu'il a parlé de cette situation. Il dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Je me glorifierai en Dieu. Hein? J'ai crié, verset 2, aie pitié de moi, ô Dieu, car les hommes me harcèlent tout le jour, me font la guerre. Et il m'a répondu. Il donne toute la gloire à Dieu. C'est que c'est Dieu, en fait, qui lui a tiré d'affaire, pas lui-même. Et donc, il y a deux conversations qui courent en même temps. Il y a une entre David et ses méchants, et l'autre conversation, c'est entre David et Dieu. Et donc, juste pour terminer, notez la priorité d'une conversation sur l'autre. Vous pouvez marquer les parties du psaume qui donnent la conversation entre David et ses ennemis. Sur le côté, vous pouvez mettre des guillemets, quelque chose, des gros guillemets, quelque chose comme ça. Au verset 2, il dit « Oh Dieu, aie pitié de moi, car des hommes harcèlent, tout le jour ils me font la guerre, ils me tourmentent, tout le jour mes adversaires me harcèlent. » Donc, les versets 2 et 3 parlent de cette conversation entre David et ses méchants. Et puis, si on descend jusqu'au verset 6, « Sans cesse, ils portent atteint mes droits. » Verset 7, « Ils complotent, ils épient. » Verset 8, « C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. » Là aussi, c'est cette conversation, cette relation entre David et ses méchants. Donc, on a la deuxième partie du verset 2, et puis le verset 3, et puis on a les versets 6 jusqu'à la première partie du verset 8. Mais tout le reste, c'est une conversation entre David et Dieu. Tout le reste. Donc, une leçon qu'on peut tirer, je le mets comme ça. David croit vraiment que Dieu écoute ses paroles et lui répond. David croit vraiment. Quand il est dans une situation tellement désespérée, il est en train de faire le fou devant les hommes, mais en même temps il crie à Dieu. Il n'est pas en train d'agir sagement, il n'est peut-être pas là même à travers... Mais dans ce moment de difficulté, dans cette situation où il s'est mis d'une certaine façon lui-même, c'est lui-même qui va à Gath. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui-même qui a choisi d'aller là-bas. Donc, il peut dire dans un sens, c'est moi qui s'ouvre les conséquences de mes propres choix. Et là, dans cette situation, il est convaincu, il croit vraiment que Dieu écoute ses paroles et lui répond. Le psaume, dans sa totalité, est une prière. C'est des paroles adressées à Dieu. Tout ce psaume. Et regardez le verset 9, je trouve que c'est très beau. « Tu comptes les pas de ma vie errante. » C'est une vie errante, mais il dit à Dieu, « Tu comptes même les pas. » Vous savez, nous-mêmes, on ne peut même pas compter nos propres pas, n'est-ce pas? Parfois, on porte quelque chose pour compter les pas, mais on n'arrive pas nous-mêmes à compter nos pas. Dieu compte nos pas, même de notre vie errante. Et qu'est-ce qu'il dit après au verset 9? « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Alors là, c'est des images. C'est pas que Dieu attrape forcément ses larmes et les amène au ciel. Mais c'est une image du fait que Dieu s'en souvient. Il garde un journal intime. Ces larmes et ses paroles sont inscrites dans le livre de Dieu. Il se souvient de sa difficulté. David croit vraiment donc que Dieu écoute ses paroles et lui répond. Et quand nous prions ce soir, nous devons le croire aussi. Sinon, on ne va plus venir. Ça ne sert à rien de venir. Mais que même dans une situation extrême, peut-être même on est dans le pétrin, comme il dit, et c'est notre faute à nous, même là, Dieu nous écoute. On peut toujours crier à lui. On est réduit à où la salive tombe de notre barbe et les gens nous croient complètement fous. On peut toujours crier à Dieu. C'est comme le fils prodigue. Il est avec les cochons, mais il crie à Dieu et puis il rentre vers son père. Il dit, mon père va m'écouter, n'importe ma situation. Donc, il y a cette conversation à Dieu qui est la plus importante. Et il croit, deuxièmement, dans l'autre sens, il croit vraiment aux paroles que Dieu lui dit. Il croit vraiment aux paroles que Dieu lui dit. On voit ça au verset 5, il dit, « Je me glorifierai en Dieu en sa parole. » Je me glorifie en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, verset 11. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole, il le répète. C'est quoi les paroles? C'était surtout des promesses. Dieu avait fait des promesses à David. Il avait oint comme roi. Et David est très confiant par rapport à Saül, que Dieu peut le protéger. Mais là, il se trouve dans une autre situation. Il n'était pas préparé pour ça. Et il agit peut-être dans la crainte, mais il se souvient des promesses de Dieu et il va se confier, même dans cette situation, que Dieu va le garder. Il ne va pas le laisser aller parce qu'il a fait il a fait un mauvais choix. Non, la parole de Dieu, Dieu demeure fidèle à sa parole, même quand nous sommes infidèles envers lui. Et il pense à sa parole, il se glorifie en sa parole, et il même quand tout semble être contre l'accomplissement de ses promesses, il fait quand même confiance à Dieu. C'est comme il avait déjà fait quand il y a eu le géant. Vous rappelez, le géant arrive, Goliath, et tout le monde dit « Ah, c'est impossible !» Et David dit « Mais il y a Dieu !» Il y a Dieu. Et là, il trouve devant le roi de ce géant Goliath, Achish, parce que Goliath vient de Gath, et encore une situation désespérée, et encore il prend, peut-être il s'est faibli un peu pendant quelques instants, mais il prend la parole de Dieu, il met sa confiance dans la parole de Dieu. Et nous devons faire le même. Quelles sont les promesses que Dieu nous donne? Est-ce que la promesse de Dieu est annulée parce que j'ai fait une bêtise? Oui ou non? Non. Est-ce que la fidélité de Dieu trouve sa fin parce que moi j'ai été infidèle envers lui? Non. Dieu reste fidèle. Et donc, on a ces deux conversations. Hein. Peut-être dans la maison, vous avez ces conversations qui sont difficiles, ou avec un patron, ou avec un voisin, et il y a deux conversations, mais quelle conversation la plus importante? C'est pas celle entre David et ses hommes, c'est la conversation entre David et son Dieu. Il croit que Dieu l'écoute, et il croit ce que Dieu lui dit. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. L'homme, toujours en train de se parler. Hein? On a besoin de parler. On se parle maintenant avec les talibans, on parle avec eux, on essaye ceci, cela. Mais nous, l'Église de Jésus-Christ, nous pouvons parler à Dieu et nous pouvons écouter sa parole. Et c'est pour ça que nous allons prier.